avec qui c'est marrant, on est caste. Nos cerveaux et s'agitent à l'envie pour nous défaire. La vie serait triste. La vie serait moche. Alors, alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Monsieur,
je porte un toast à tous ceux qui on luttait pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire 89,4 MHz. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et Débats du jour qui commence avec aujourd'hui un programme absolument magnifique, puisque nous recevrons dans cette émission deux auteurs que nous aimons particulièrement. Il s'agit de Claire Castillon, qui nous revient avec un recueil de nouvelles paru chez Gallimard, recueil intitulé L'œil. Et ses textes sont absolument prodigieux. Fascinant, inquiétant, troublant. Et puis, on aura également un roman, et ce roman, il est écrit par Michel Gazier. Il s'intitule « Les silences d'Alexandrie ». Il est paru aux éditions Mercure de France. Et c'est un roman, lui aussi, troublant et dérangeant. Voilà pour le programme. On retrouve tout de suite Claire Castillon sur Radio Libertaire. C'est toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le grand plaisir de retrouver Claire Castillon pour un recueil de nouvelles qui est paru chez Gallimard et qui s'intitule « L'œil ». Alors moi j'aime beaucoup Claire Castillon et j'aime beaucoup les nouvelles. Alors le mélange des deux, parce que vous faites régulièrement des recueils de nouvelles, mais là ça faisait quand même un petit moment qu'il n'y en avait pas eu, donc je suis contente de vous retrouver sous cette forme-là. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à lire ce livre, on va en parler dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on parle du titre, L'œil, qui correspond à une des nouvelles, et c'est la nouvelle, j'allais dire, la plus différente des autres. Donc je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi celle-là pour donner le titre au recueil, parce que c'est une nouvelle... qui n'est pas dans le même ton que les autres. C'est la seule nouvelle aussi qui n'est pas la première personne. Et c'est un peu un ovni dans le reste du livre. Enfin, un ovni, tout est relatif, mais en tout cas, elle est unique.
Mais je pense que je l'ai appelée L'œil, pas du tout par rapport à cette nouvelle, en fait, qui s'appelle pourtant L'œil, mais plus parce que j'ai peut-être, je suis jamais très sûre, mais j'ai peut-être remarqué que que ce livre-là parlait des apparences et de ce qu'on voyait et de ce qu'on voyait pas. Et à la limite, l'œil, pour moi, c'était dans la dernière nouvelle du recueil « Les volets clos ». Les deux yeux que forment ces volets clos dans une maison qu'on regarde d'en face comme ça. Donc, c'est amusant parce que vraiment, en effet, je suis d'accord, ça parle d'un regard un peu fermé, alors que la nouvelle dont vous parlez, qui est étrange, parle d'un regard complètement aveugle et privé de tout. Mais pour moi, l'œil, au contraire, c'était cette espèce d'œil perpétuel qui regarde par-dessus notre épaule quand on fait quelque chose, qui nous juge, qui nous ordonne, qui nous détourne. C'était un peu tous les yeux que j'ai souvent l'impression d'avoir autour de la tête et qui regardent partout. Et puis ça marche aussi dans l'autre sens, hein, le regard. C'est vrai que c'est pas que l'œil qui part du visage et qui regarde, c'est vraiment tous les yeux, qui nous regardent.
Oui, et puis j'allais dire, il y a les apparences aussi données par l'auteur par rapport au lecteur. Et ça aussi, c'est intéressant parce que vous nous donnez à voir des personnages, mais vous truquer un peu les choses dans plusieurs nouvelles. Bon, on va pas dévoiler les nouvelles, mais comme quoi, il ne faut pas toujours que le lecteur se fie à son impression première, parce que vous vous amusez justement avec la chute de la nouvelle à nous montrer que ce qu'on a vu, bah, c'était pas tout à fait ça.
Oui, je pense que c'est important parce que c'est ce que j'aime lire et donc c'est ce que j'essaie d'écrire. Et pour les nouvelles, en effet, sans vouloir à tout prix une chute en queue de poisson ou très forte. Moi, j'aime bien qu'il y ait une chute qui nous fasse, à nous lecteurs, penser « Mais ah bon, c'était ça, j'avais pas compris. » Et là, ce que j'ai fait, c'est qu'après la première chute, j'ai mis une annexe, qui est une sorte de possibilité de deuxième chute, en me disant « Super, en fait, on va être face à une histoire. » On va avoir la fin de l'histoire en se disant « Ah, c'était ça !» Et puis en fait, l'annexe va éclairer l'histoire autrement et on va se dire « Ah mais non, en fait, c'était ça !» Et donc j'aimais bien la carabine à double détente, comme on dit.
Et justement, toutes ces nouvelles sont construites comme ça. Il y a le texte qui, donc, à part l'œil, est un texte à la première personne. Il y a un « je » qui nous parle, qui parle au lecteur, qui raconte son histoire. Et puis, en contrepoint de ce jeu, il y a une annexe qui peut être un courrier, qui peut être un article, qui est un texte écrit, j'allais dire presque neutre, et qui vient effectivement mettre ce qu'on a lu en perspective.
Oui, c'est vraiment apparu cette histoire avec l'envie du double choc. Hein, disant, c'est vrai que la nouvelle, j'en ai fait pas mal. J'ai écrit beaucoup de recueils de nouvelles. C'est pas du tout que je sais faire, mais c'est que j'ai toujours envie d'essayer un peu autre chose. Et je me suis dit, ce serait tellement bien que cette histoire qui finit brutalement, si elle est regardée par un autre, elle nous raconte pas forcément le contraire, mais un peu autre chose. Parfois le contraire et parfois autre chose. Et j'avais, en tout cas pour ce recueil-là, le souci du suspense et du choc.
Alors, ces chocs, on les a, et on les a de plusieurs manières. On évoquait cette nouvelle qui s'appelle « L'œil », qui est une nouvelle qui, moi, m'a glacée, mais parce que, justement, on n'est pas dans le « je », là, on est dans la troisième personne, et du coup, ça nous met encore plus à distance, on est encore plus dans la froideur, et ça, on peut l'évoquer. Ce sont l'histoire de personnages qui vont souffrir d'une amnésie très très particulière. Ils vont souffrir d'une amnésie des moments de plaisir. Et j'ai trouvé cette nouvelle absolument terrible et glaçante. Comme beaucoup, mais celle-là, de par son écriture, a un côté fantastique qui reste dans les esprits.
Ah oui, c'est important. J'aime bien qu'il y ait un paysage dans une nouvelle qui hante un peu. Et là, en effet, c'est l'histoire d'un virus qui parcourt le monde et qui s'attaque à certaines personnes, gommant de leur mémoire tout effet du plaisir. C'est-à-dire que les personnes vont faire quelque chose qui leur plaît, je sais pas, une croisière sur un fleuve, mais ils se souviennent seulement du moment où ils ont patienté devant le bateau pour avoir leur ticket, et quand ils ont fait la queue, ils se souviennent du moment où ils descendent et où tout est derrière eux, mais ils se souviennent absolument pas du moment de plaisir que représentait à leurs yeux la croisière. Et donc, à force, ces gens-là décident de perdre leurs yeux, préfèrent perdre leurs yeux plutôt que de rater à ce point tout le plaisir que pourrait leur apporter la vie. Donc c'est une nouvelle assez absurde, hein, mais peut-être que tenue par cette voix très extérieure qui n'est pas un jeu, en effet, quand vous parlez de froideur, c'est presque un règlement.
Ouais, ça fait très description clinique, en fait.
Oui, voilà, c'est comme ça. En fait, j'avais envie de décrire ce virus. Voilà, je vais dans un restaurant manger mon plat préféré. Et ben, je m'en rappellerai pas. En revanche, je ressortirai en sentant que j'ai trop mangé, que je suis pas bien, mais j'aurais perdu absolument tout souvenir de ce qui s'est passé, toute vision. J'aurais rien vécu. C'était un peu de la science-fiction. J'aime bien approcher en tout cas les espèces de fin du monde.
Oui, oui. Et puis le fait qu'il y ait du coup aucune émotion. Rend celle-ci encore plus forte chez le lecteur. Et ça, c'est important.
Je veux qu'il le ressente. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle. Et je veux qu'il le ressente. Je veux le voir. Et j'irai jusqu'à en avoir le pull taché de sang. Jusqu'à la bave et les sanglots. Je parlerai comme un Italien avec les mains. Et j'aurai enfin plus aucun secret à dire. Sculpture au marteau, peinture au couteau. Je me suis jamais senti autant créatif. Demain j'irai graver mon deuil sur sa peau. Et ma balance affichera 10 kilos de moins. Increvable colère, je suis pas désolé. Il est mort le soleil. Mon Dieu qu'elle me manque. Tout s'éteint des crescendo. Ma terre s'arrêtera bientôt. Et c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, qu'elle manque. Tout s'éteint des crescendo. Bientôt plus rien à perdre. Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. Oh, je veux qu'il le ressente. Je recherche le bruit comme une drogue. Dans le silence, ma mémoire joue les pires mélodies. J'essaye d'éjecter le disque. Oh, mais ça reparaît mes molaires, font des étincelles. Je déraillais la seule qui pourrait m'aider, c'est elle. Quelle ironie. Ah ouais, quelle ironie. Ok, si je suis resté à fixer les aiguilles jusqu'à la fin de la nuit, c'était pas pour voir si l'horloge marchait. Plus je m'interviewe, moins je sais qui je suis. Juste cette fille-là, c'est tout ce que je demande. Je ne saurais que faire du reste du monde. Je l'ai désiré perdument. Et maintenant je me sens tellement perdu. Mon Dieu qu'elle me manque. Tout s'éteint des crescendo. Ma terre s'arrêtera bientôt. Et c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu qu'elle manque. Tout s'éteint des crescendo. Bientôt plus rien à perdre. Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. Mon Dieu qu'elle me manque. Tout s'éteint des crescendo. Oh, ma terre s'arrêtera bientôt. C'est sûr, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu qu'elle manque. Tout s'éteint des crescendo. J'ai bientôt plus rien à perdre. Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. M'occuper de ce quelqu'un d'autre.
Quelqu'un d'autre. Alors oui, c'est un peu de la science-fiction, enfin c'est science-fiction fantastique, et c'est quelque chose que vous touchez aussi dans d'autres nouvelles de ce recueil. J'allais dire, c'est un peu, Bukowski avait fait les contes de la folie ordinaire, et là c'est un peu les histoires de nos folies ordinaires, avec différents degrés de névrose ou de dérapage, allant même jusqu'à cette dimension fantastique. Je pense à cette nouvelle qui s'appelle Le Rat, par exemple. Donc vous vous autorisez à aller justement du plus, j'allais dire, de la petite phobie la plus simple jusqu'à des histoires un peu étranges et troublantes.
J'aime bien quand elles m'envahissent, ces histoires-là. Le rat, en effet, c'est un bon exemple. C'est vraiment l'histoire d'une femme qui part au travail, tout va bien ou à peu près. Enfin, on la connaissait pas avant, on imagine que ça allait pas forcément bien ensuite. Mais bon, voilà, elle part et puis en fait, elle a un problème qui est un problème de poil légèrement incarné dans sa jambe, qu'elle a pris l'habitude d'essayer d'extraire, sauf que là, elle se heurte à un vrai problème, elle tire dessus, et en fait, plus elle tire, plus il s'allonge, plus il s'élargit, moins il passe la barrière de sa peau, et plus cette chose qu'elle essaye d'extraire d'elle ressemble à une queue de rat, etc., etc. Et donc, c'est vraiment raconté dans le quotidien de personnes qui ont l'air, hein, bien sûr, d'avancer à peu près droit, l'intrusion d'un mystère absolu qu'on peut confier à personne, qui envahit toute la tête, tout le corps. Et j'avais un peu fait ça dans Les Bulles, il y a quelques années, un autre recueil de nouvelles, et je pense que c'était aussi sur ces espèces de folies qui nous habitent même très fugacement, en même 4 secondes, mais qui montrent quand même que le déraillement est possible. Alors là, dans L'Œil, je pense que le déraillement arrive plusieurs fois. Ça dépend des nouvelles, en fait. Mais j'aime bien parler de cette possibilité très... Enfin, la frontière est très fine, on le sait, hein, entre tout ce qui va droit et tout ce qui... On rentre dans le domaine de l'accident, et je pense qu'avec le mental c'est pareil, donc ça m'intéresse beaucoup de laisser les personnages aller vers cette espèce de folie, surtout quand le cadre a l'air très, très propre, très fixé.
Oui. Il y a une nouvelle qui me vient en tête, et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même des thématiques récurrentes qui reviennent dans vos nouvelles, comme dans vos romans d'ailleurs. Et il y a le poids de la famille qui est extrêmement présent. Et je pense à cette nouvelle qui doit s'appeler Ma vraie peau, qui est une nouvelle que j'aime beaucoup, que j'aime énormément, parce que on voit le poids des choses, le poids des traditions, le poids de ce qu'on nous transmet avec cette femme qui on peut pas même pas dire son âge, parce que elle est tellement habillée en vieille par son histoire familiale, elle a un vieil appartement, de vieux vêtements, elle est amenée à porter les soutiens-gorge de sa grand-mère parce qu'elle a la même forme de sein que sa grand-mère, et sa mère lui donne les soutiens-gorge de sa grand-mère. Tout ce qu'elle porte, c'est son histoire familiale et ses ancêtres. Elle n'a pas de peau propre jusqu'à un moment où, mais ça on n'en dira pas plus, mais rien que la description du poids qu'elle a apporté au départ nous met dans une ambiance particulière.
Oui, elle est en effet, il y a ce poids de la famille et puis tout à coup ce poids de l'amour possible, parce qu'elle... Elle arrive en vacances, évidemment, dans la ville où elle passait ses vacances avec sa famille. Et puis, soudain, elle voit qu'un tatoueur a ouvert un magasin. Et elle se dit rien, en fait. Elle passe devant et puis il lui met un peu le grappin dessus. Et elle rencontre avec ce tatoueur la possibilité de refaire sa peau. Et donc, on voit avec quelle à la fois... soumission et bonheur, elle se confie à lui qui refait quelqu'un d'autre, et à quel point à jamais elle est confiée aux mains des autres, que ce soit aux mains de ses ancêtres ou aux mains de ceux qui n'en ont rien à faire mais qui se contentent de la tatouer parce que ça leur rapporte de l'argent. Et bah oui, elle aussi, en fait, j'aime bien les personnages comme ça, de femmes comme vous dites, sans âge, mais qui en même temps sont très, ont bien fait attention de ne blesser personne, se sont fabriqués un petit univers avec l'univers des aïeux, etc., etc., à qui on peut pas demander de changer une paire d'assiettes parce que ce serait trahir la génération des ancêtres, et donc qui est très précautionneuse, qui essaye de surtout pas salir les souvenirs et qui tout à coup se met en colère et se dit « Allez hop, ça y est, je change de peau, je me tatoue des pieds à la tête. » Et j'adore embarquer avec eux. Là, il y a vraiment un plaisir d'écrivain à ce moment-là. Je pense vraiment pas à l'histoire. Je me dis « Je l'adore, vas-y, on y va. » Il y a un truc d'entente et de copinage avec le personnage qui est total. Et dans ces cas-là, c'est vrai que je suis pas dans l'analyse de ce que je raconte, je suis vraiment dans l'histoire qui avance. Tiens, qu'est-ce qu'on va lui faire? Qu'est-ce qu'on va lui tatouer? Est-ce qu'elle va tomber amoureuse du tatoueur? Après, c'est très pratique quand j'écris, en fait.
Mais des personnages comme ça, il y en a plusieurs dans ce recueil, donc L'œil qui est paru chez Gallimard de Claire Castillon, parce que je pense à deux histoires, je pense à la dernière, Les volets clos, où la femme se décrit quand même comme une aire de service d'autoroute, c'est une formule qui m'a glacée, et puis je pense aussi à la nouvelle qui s'appelle Le gras du poulet, voilà, donc on a à chaque fois ces femmes qui se sont effacées de leur vie propre, de leur histoire pour s'adapter aux autres, pour être au service des autres, pour toujours être disponible pour les autres, faire bonne figure, même si elles se retrouvent dans des situations familiales ou de couple, parce que là, les histoires de couple, il y en a un certain nombre, assez terribles.
Oui, mais ça, c'est vrai que depuis toujours, ce personnage-là me plaît énormément. C'est-à-dire, en effet, l'air d'autoroute, c'est le côté... Hein, je suis en plus épanouie, elle me dit qu'elle est épanouie d'être une aire d'autoroute. On s'arrête, on lui demande n'importe quoi, elle est capable de rendre service, etc., etc. Et déjà, parce que ça promet des scènes qui, moi, m'amusent. Dans Les volets clos, il y a cette femme qui s'assoit dans l'herbe, qui n'arrive pas à tenir, qui tombe à moitié à côté de la couverture de pique-nique, enfin, qui est une espèce de déchet qui n'est bien que debout, à faire des allers-retours entre la cuisine et la table où les invités sont assis et où elle ne s'assoit jamais. Et ça me réjouit encore hein, quand je l'écris. Mais c'est en effet des personnes qui, a priori, ne peuvent pas faire le choix... de la compagnie des autres en ayant une importance, en fait. Voilà, il faut être dans la cuisine et préparer à manger, et puis surtout pas participer au repas, parce qu'en fait, au fond, on est mieux dans la cuisine. Alors après, c'est vrai hein, qu'il y a un certain plaisir à se retrouver... enfin, moi, ça m'est arrivé, par exemple, de me dire qu'est-ce que je suis mieux dans la cuisine pourtant, j'aime pas cuisiner, mais à faire des choses presque en secret dans une cuisine ou dans une autre pièce, plutôt que d'être dans la pièce où il y a les autres. Il y a aussi quelque chose de l'ordre du tempérament, d'être à côté, de se dire « je peux m'échapper si je veux, il y a une fenêtre ». Il y a ça aussi dans mes personnages.
Son sang. insatiable parent a tué ses enfants. La fontaine tarie, elle retrouvera la vie. Une fois que ses ennemis ne seront plus de son temps.
Oui, et puis il y a par rapport à cette femme aussi dans les volets clos qui va se persuader que sa voisine est donc présente malgré un éventuel départ en vacances et qui va se mettre à se montrer, à vouloir lui montrer, la famille Ricoré et l'image du bonheur et qui va se mettre à faire n'importe quoi. Elle va danser, elle va essayer de faire un grand écart, elle va se péter la gueule. Enfin bon, elle est dans... Montrer qu'elle est encore en vie.
Voilà, montrer que c'est super, montrer que quand son mari rentre, elle lui saute dessus, qu'elle organise des apéritifs, qu'elle fait chanter ses enfants, qu'elle leur fait faire des spectacles à la fois, qu'elle-même est très épanouie, etc., etc. Et montrer tout ça à des volets clos, étant sûr que derrière, en effet, la voisine la regarde et se dit « Waouh, quelle vie de rêve !» c'est tout, oui, c'est ça, c'est cette espèce de... Comment dire ? À écrire, c'est toujours de la tristesse amusante, en fait, la tristesse du désespoir absolu. Donc, je prends un certain plaisir assez grand et de plus en plus grand à décrire la vie des êtres qui inventent tout, en fait, qui inventent tout, ce qui est déjà bien, parce qu'il faut réussir à inventer tout ça, mais qui sont en permanence en circuit fermé avec eux-mêmes. Et c'est eux-mêmes, c'est beaucoup de monde, souvent. Chez ces êtres-là, je pense qu'il y a beaucoup d'entités, comme on dit, à l'intérieur d'eux, qui expriment un tour de rôle.
Avec différents niveaux, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, différents niveaux de dérapage. Il y a quand même des histoires très très sombres dans ce recueil L'œil, paru chez Gallimard, Claire Castillon. Moi, il y en a une qui m'a... C'est que j'ai trouvé absolument terrible, c'est la symbolique en bandoulière.
Ah oui. Elle me tient à cœur parce que j'ai toujours besoin quand même besoin. Dans mes nouvelles, j'ai toujours besoin ou envie de faire une espèce de grand monologue de mère toxique. Et là, j'en avais une belle.
Ah, elle est super prise dans le genre.
Et donc, une mère qui décide en plus de s'adresser à son petit-fils pour déballer toutes les horreurs qu'elle a à déballer sur sa propre fille, mère de l'enfant. Donc. Et là, quand ça part, en effet, on ne peut plus m'arrêter. Parce que
va très très loin, celle-là.
Voilà, donc là, ça me... J'aime énormément confronter à l'horreur une espèce de discours qui ne peut pas atteindre la vérité de l'horreur, mais qui du coup est encore plus horrible. Et ça me... À nouveau, il y a quelque chose de l'ordre de l'excitation dans le fait de se dire, il y a une situation monstrueuse, en fait, une adolescente a été violée par des hommes un soir, et puis 30 ans plus tard, sa mère le raconte à son petit-fils dans une forme assez horrible, en fait, et complètement détachée des événements, lui disant « Écoute, ta mère exagère », etc. Avec cette espèce de côté un peu propre de calendrier de l'Avent. Et donc, quand la brutalité sort comme ça des êtres qui ont l'impression de savoir se tenir, elle est atroce. Donc ça me...
Alors, celle-là, on ne va pas trop la déflorer parce qu'effectivement, elle est extrêmement forte. Mais, ce n'est pas la seule mère toxique du livre. Je pense à une nouvelle qui s'appelle « Mon fils », où là, c'est autant la symbolique en bandoulière, on la prend en pleine figure, autant « Mon fils, c'est une mère toxique », mais... Ça va tellement loin dans l'absurde qu'on est tout le temps aussi dans cette double dimension d'humour noir, quoi. C'est noir, mais en même temps, c'est corrosif et ça fait du bien.
Ah oui, la mère toxique, c'est vraiment la mère qui se sent parfaite, qui sait tout pour son enfant, et qui voit pas du tout le problème quand à 15 ans, il a toujours des tétines, des biberons, et même plus tard quand il se mariera. Et donc, bah oui, c'est une autre forme. Elle ressemble un peu à la mère de la symbolique en mode ouvrière, mais en plus jeune. Finalement.
Oui.
Donc elle est sûre qu'elle fait bien. Voilà. Elle est sûre que l'enfant va bien et qu'elle a tout très bien fait.
Mais, de toute façon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. Il y a une nouvelle que j'aime également beaucoup. Elle est un petit peu différente. Déjà parce que c'est un personnage masculin qui parle. Il n'y en a pas tant que ça, mais là, c'est un grand-père et c'est une nouvelle qui s'appelle Instagram. Et je la trouve extrêmement tendre, cette nouvelle.
Oui, elle est tendre. C'est l'histoire d'un grand-père qui s'est récemment abonné à Instagram parce que ça lui permet d'avoir des nouvelles de ses enfants, de ses petits-enfants qui publient des choses. Et face à tout ce qu'il lit et voit, il est assez dubitatif. Alors, comme il est gentil, il essaye de voir de l'humour dans tout ce que publient ses enfants et ses petits-enfants, alors qu'a priori, il n'y en a pas. Hein, on est bien premier degré.
Ah oui.
Lui se dit... voilà, il essaye finalement de décrypter le caractère de chacun. Il espère peut-être passer à côté de choses qu'il aurait ratées chez ses enfants et ses petits-enfants. Lui, à son tour, envoie des photos de fleurs, de la nature, de tout ce qui l'entoure dans sa maison de campagne, en espérant qu'un jour, on vienne lui rendre visite. Et ça, c'est vraiment... Je me suis souvent demandé, en fait, ce que pensaient les personnes d'un certain âge quand elles voyaient leurs enfants et leurs petits-enfants s'afficher sur les réseaux sociaux avec des photos complètement bizarres, des propos complètement inadaptés. Et ça m'a toujours fait beaucoup rire, rire et mal à la fois. Mmh. Je me disais, je voudrais raconter l'histoire d'un grand-père à la fois atterré, mais qui veut bien faire.
Oui, et puis en même temps, qui est tout seul, parce qu'ils n'ont pas de contact. Il n'a pas de contact avec les membres de sa famille. Il y a le contraste entre tout ce qui est publié sur Instagram et le fait que lui est tout seul dans sa ferme, sans avoir de nouvelles particulières, et qu'il les découvre avec des aspects complètement inconnus, et que malgré tout, il les aime.
Oui, et qu'il a envie qu'ils viennent, en fait.
Ouais. Il aimerait bien, oui.
Il aimerait bien, voilà.
Je n'avais jamais eu de chambre à moi, ni seulement l'un de ces lits où, dit-on, l'on se noie dans des draps blancs. Je n'avais jamais eu que des divans, des lits étroits, que des couches où l'on dort comme en plein vent et où l'on a froid. Enfant, j'ai toujours appris mes leçons, fait mes devoirs dans la salle à manger où grand garçon, soir après soir, j'ai fait mon lit dans un angle du mur où j'ai rêvé à toutes les couleurs de l'aventure comme à la TV. Puis j'ai retenu mon souffle en rentrant après minuit pour ne pas alerter mes chers parents de mes ennuis. Ils devaient pour travailler se lever avant le jour et auraient bien sûr jugé dépravé mes pauvres amours. J'irais alors dans les tristes banlieues où l'on n'attend rien et où l'on marche des lieux et des lieux en espérant qu'un geste ou qu'un regard bouleversera la petite vie que les parents ont menée là sans en avoir vraiment envie. Commencer que tout finit, vaudra repasser de l'existence au pli bien jauni. Jamais vraiment tiré de l'armoire des nuits sans envie. Drap sec, drap vierge et drap mémoire de bien trop morne vie. Malheur à toi, toi qui voulais mieux que vivre à demi. Faire de tous tes jours des fêtes, Dieu, aux riches semis. Sur tes draps aux couleurs de lilas, de fleurs pourpres, en lourds entre la brassée de pavots, cœur grenadeuil et noir, et de trèfle incarne un bouquet de sauge et de datura rose, rosé, rose baccara liée dans leur parfum scélérat, purulent opéra. J'ai trop connu de ces draps élimés avant leur temps. Triste drap d'hôtel où sont imprimées des fleurs des champs. Simples comme sont celles des cloisons, comme bonjour, qui ont fait dépérir de leur poison tant et tant d'amour. C'est dans ces fleurs décolorées que j'ai pu modérer mes belles ardeurs et mes grands projets que j'ai serrés. Quelques corps, quelques cœurs qui m'ont appris à me guérir de ces erreurs meublant mon bel esprit jusqu'à en mourir. Et c'est là qu'un jour, entre ces deux draps de nylon sec, toi que je n'attendrai plus, tu viendras et tout avec. Avec ces riens qui font un roi du pire nécessiteux, et l'amour restaurera son empire dans mes draps douteux. Riant, nous irons tous les deux choisir la première paire de draps blancs qui seront sur nos désirs, voile sur la mer, voilure de navire, voilage de noces et parfumé tel que la toile de fil des cosses de la sainte nappe de l'hôtel. Que tout finit, je n'aurais pas su saisir ma chance, saisir l'ironie de ce sort qui commande ce soir comme une anarchie. Des draps blancs maculés de noir en un sanglant gâchis. Malheur à toi, toi qui voulais mieux que vivre à demi. Faire de tous tes jours des fêtes, Dieu, aux riches semis. Sur tes draps aux couleurs de lilas, de fleurs poutres, en loups entre la brasse et de pavots, qu'un grenadier noir et de trèfle incarne un bouquet de sauge et de datura rose, rosé, rose baccara. Et dans leur parfum scélérat, purulent opéra.
Alors ça, c'est une nouvelle assez douce, en même temps triste, parce qu'effectivement, il y a cette solitude, avec une chute encore, elle est encore à double détente, elle est assez drôle d'ailleurs. Il y a beaucoup d'humour quand même, malgré la noirceur. Et j'allais dire, il y a également toutes ces nouvelles de barjots. On va les appeler comme ça, des gentils barjots, que ce soit des kleptomanes ou des érotomanes ou des phobiques. Donc là, moi j'ai bien aimé le fait d'être dans leur tête, d'être avec ces personnages et de voir ce que ça peut être le quotidien ou le dialogue intérieur de la kleptomane, par exemple.
Oui, bah oui, moi ça me passionne. Quand au moment d'écrire, je me dis ah je l'ai, il y a quelque chose comme ça. Donc en effet, cette femme qui va voler dans un magasin et qui entretient un rapport totalement libidinal avec le type qu'elle imagine être derrière sa caméra de surveillance parfois et adorer qu'elle vienne dans le magasin comme si vraiment elle s'envoyait en l'air avec lui par le biais de la caméra, tout ce qu'elle ressent dans ce magasin, et puis elle ressort avec un objet dont elle n'a rien à faire et qu'elle jette en passant.
Surtout, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui lui plaise, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le magasin qui lui dit ce qu'elle doit, de quoi elle doit le décharger.
Voilà, donc elle est comme ça, on a un homme qui n'est pas très bien non plus, mais c'est peut-être moins psychologique, mais l'homme qui tombe amoureux d'une autre femme le jour de son mariage, lui, il me plaît bien dans son côté « j'ai rien vu, j'ai rien fait ». Mais c'est un petit peu moins fou. Enfin, fou, si les obsessions sont folles, oui. Parce qu'en fait, moi, je ne sais pas dire ces mots-là, j'en sais rien. C'est vrai que je sais que parfois, quand la kleptomane traverse mon cerveau comme ça, je me dis ah chouette. Quand la femme habitée par son rat arrive, je me dis génial, je suis contente. Mais je suis contente de quoi ? Je suis contente d'être traversée par des émotions. Je le vois comme des émotions humaines en fait, que certains réfrènent et d'autres pas.
Oui, 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 c'est effectivement des émotions. J'allais dire qu'il y a quand même quelques nouvelles qui sont d'une tonalité différente, parce que là, on est confronté plus à la méchanceté brute. Je pense à deux nouvelles, il faut que je retrouve les titres, ça doit être Le Journal de la Pulsion, qui est terrible, et puis... Et puis il y en a une autre, c'est l'histoire du SDF, c'est Mont Sauvage, voilà. Où là, on se dit ah ouais quand même. Elle nous fait une description du monde et des autres et de la relation aux autres. Ouh.
Ah oui, dans Mont Sauvage, oui, mais je peux pas raconter.
Non, on peut pas raconter la fin, mais c'est comment. Oui, on peut ne pas recevoir en retour l'amour que l'on donne, que ce soit de la compassion pour son prochain ou que ce soit de l'amour maternel par rapport à sa propre fille. Donc là, il y a beaucoup de violence.
Oui, il y a de la violence aussi. Il y a une nouvelle où une femme prise dans sa vie... de femme, etc., se met à repenser à son premier amour. Et tout à coup, elle est sous la douche, elle se dit « elle se souvient de Léopold ». Et donc, fantasme sur Léopold toute la soirée, toute la nuit, jusqu'à ce que le lendemain, on se rende compte que... Ouais. Je ne peux pas
non plus, c'est non, très non, compliqué. Non,
non. Mais oui, il y a quelque chose sur l'amour mal adressé ou maladroit ou mal reçu.
Oui, l'amour destructeur aussi, parce que je pense à cette autre nouvelle. Alors là, on se situe au niveau des enfants, et quand vous faites parler des enfants, vous êtes très douée, Claire Castillon. C'est la nouvelle qui s'appelle Les Cascades, où cette petite fille qui aime profondément ses parents, qui perçoit que ce couple est en train de se détruire, se défaire, et qui va essayer de faire diversion à sa manière, on ne dira pas comment, pour que les adultes pensent à autre chose. Et
il n'est pas le temps de se dire au revoir. Voilà. En fait. Ouais. Elle interrompt toujours les querelles et les conversations. Et... Oui, bah c'est... Voilà, pour le coup, c'est encore un autre thème, mais je pense qu'il me tient à cœur, sur le pouvoir qu'on croit avoir, surtout enfant,
sur les autres.
Sur cet immense pouvoir qu'on aurait, si je ne fais pas ça, le monde va exploser. Ça, c'est un vrai souvenir d'enfance très, très proche de moi. Cette impression de tout pouvoir voir, contrôler, fabriquer, à condition de faire de sa vie comment dire, un sacerdoce perpétuel. Si je ne fais pas 28 000 fois le tour de ma chambre à cloche-pied, non, ça va s'arrêter, etc. etc. Ouais. Ça, c'est une voix d'enfance que j'entends très bien.
Oui, c'est une voix d'enfance où on se sent capable d'influer sur tout, mais où on se sent aussi responsable de tout. Tout ce qui arrive est forcément lié à nous, dans un sens ou dans l'autre.
Oui, chez l'enfant, il y a souvent ça. C'est beau, hein. C'est beau et c'est désespérant à vivre.
Alors, on ne peut que conseiller de lire L'Œil, ce recueil de nouvelles de Claire Castillon. C'est paru chez Gallimard. C'est un superbe livre. Vraiment, je le recommande. Et question rituelle, Claire Castillon, dans cette émission, c'est à savoir les projets. Alors, on va dire qu'il y a un nouveau livre pour enfants qui sort bientôt. Il me semble que le volume 3 va sortir.
Volume 3 des Oreilles du Bois Joli qui sort.
C'est trop bien. C'est trop bien. J'adore.
Ah, chouette. Et puis, il y a un livre jeunesse, enfin young adult, sur l'agoraphobie qui sort en premier semestre 2024, janvier ou février, je ne sais pas.
D'accord.
Et puis là, j'ai écrit un roman pour adultes.
Oh, ok, ça n'arrête pas. Ouais. Et le young adult, ce sera chez qui?
Crypto Gallimard Jeunesse.
D'accord.
Ah, bah, ça s'appelle Géographie de la peur.
Ah. Bah merci en tout cas, Claire, de cette discussion autour de ce recueil de nouvelles L'Œil paru chez Gallimard. Et puis, bah, j'espère à bientôt pour ce prochain livre. Merci beaucoup.
Merci à
vous. Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Voilà, c'était Claire Castillon. Claire Castillon qui nous parlait de son recueil de nouvelles intitulé L'Œil paru chez Gallimard. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Michel Gazier pour son roman paru au Mercure de France, roman intitulé Les silences d'Alexandrie. C'est toujours pour Radio Libertaire, 89,4 MHz, c'est l'émission Idéo et Débat, et c'est le plaisir de retrouver Michel Gazier pour un nouveau roman qui est paru au Mercure de France et qui s'intitule Les silences d'Alexandrie. Alors je suis très contente déjà de retrouver Michel Gazier, et je suis contente de parler de ce livre parce que ce livre m'a suscité des réactions assez étonnantes. Je lis pas mal, hein. On est toutes les deux de grandes lectrices, et je dois dire que peu de livres m'ont déclenché des émotions et des réactions aussi fortes, à la fois de plaisir de lecture et en même temps de colère et de dire non, des réactions extrêmes par rapport à un des personnages du livre, et donc on va être amené à en parler. Et je trouvais que ces réactions, alors je l'ai relu quelques temps après pour voir si ça me faisait le même effet. Bon, c'était plus apaisé, et puisqu'il n'y avait pas la découverte de la première fois, mais c'est vrai que ça prouve la qualité du livre et le fait que quelque part ce livre est réussi, puisqu'il arrive à susciter chez le lecteur peut-être les mouvements que connaît, les mouvements internes que connaît la narratrice. Bravo Michel pour ça, même si sur le coup ça m'a fait réagir. Merci pour Les silences d'Alexandrie. C'est un livre qui contient beaucoup de choses, parce que il y a plusieurs niveaux de lecture de ce livre. Alors il y a tout d'abord, on va évoquer le personnage de cette narratrice qui au départ, est une jeune enseignante. Elle vient de terminer ses études, son premier poste. Ça remonte à il y a un certain nombre d'années. Elle a peu de différence d'âge avec ses élèves. Elle se retrouve pas du tout dans une ZUP ou dans n'importe quoi. Non, c'est un établissement banal, une classe banale, d'enseignement banal, avec des élèves qui sont pas plus motivés que ça, mais qui sont pas méchants non plus. Donc voilà, c'est une situation extrêmement ordinaire au départ.
Ouais. Oui, je tenais beaucoup à ça, parce que, bon, évidemment, je me suis servi, je tiens à dire tout de suite que la narratrice, c'est pas moi, à aucun moment. Mais je me suis beaucoup servi de mon expérience, bien entendu. Je n'ai jamais enseigné le français comme ma narratrice, j'ai enseigné l'espagnol. Mais j'ai enseigné très jeune, avec aussi beaucoup de, très peu d'écart entre l'âge que je pouvais avoir et celui de mes élèves. Et je crois que j'ai beaucoup regardé à cette époque-là ce que c'était qu'une classe, comment ça se composait, comment... parce qu'en fait, une classe, c'est pas seulement des gens alignés les uns à côté des autres. Une classe, ça a une identité, ça a une âme et ça a quelque chose de fort. Et si quelqu'un y arrive de manière tout à fait inopinée, à un moment qui n'est pas le bon moment, c'est-à-dire la rentrée des classes, ça peut absolument perturber tout. Là, je me suis servi d'un souvenir qui n'était pas de moi professeur, mais de moi élève. J'ai le souvenir quand j'étais élève, il y a eu une fille qui est arrivée dans la classe. À l'époque, il n'y avait que des filles, on était dans des classes de filles. Et cette fille, elle venait, moi je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais elle venait d'Algérie. En fait, c'était une petite pied noire. Mmh. Et elle ne mangeait pas les mêmes choses que nous. Et elle n'avait pas du tout l'attitude que nous, élèves très sages, très comme ça, avions. Et je me suis souvenue d'elle, parce que je me suis dit, elle a perturbé la classe d'une certaine manière. Moi, je l'admirais beaucoup parce qu'elle mangeait de la sauce tomate avec du sucre. C'est une chose que je n'ai jamais mangée de ma vie, entendons-nous bien. Mais, et je ne l'ai pas mis effectivement dans le livre. Mais ceci pour dire que c'est ça qui m'a intéressée au départ. C'est comment quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans le moule intervient dans une classe et tout à coup peut attirer l'attention du professeur, perturber l'ambiance, en tout cas faire qu'elle soit inoubliable d'une certaine manière.
Alors effectivement, va arriver en cours d'année, alors que le groupe classe, comme on vient de l'évoquer, était déjà constitué avec ses interactions complexes, va arriver cette jeune fille qui est déjà atypique par son apparence, parce que elle a un regard de glace, elle a une chevelure frisée absolument improbable et éclatante, et elle a surtout un comportement, j'allais dire, hors limite, hors cadre. Oui. Complètement justement en dehors de ce moule très cocoonesque de la classe.
Oui, tout à fait. Elle est plus, visiblement plus jeune, en tout cas plus petite de taille, et elle a une sorte d'insolence que les autres élèves de la classe...
Il n'y a pas de filtre.
Eh bien, filtre. Elle dit comme ça ce qu'elle... par exemple, elle refuse de remplir la fiche d'entrée en classe. Où tout le monde l'a remplie. Et on peut penser que dans les écoles qu'elle a suivies, les cours qu'elle a suivis, les écoles qu'elle a fréquentées avant, elle a eu à remplir ce genre de choses. Mais c'est comme si ça n'existait pas. Mmh. Elle est autre. Mmh. Et c'est là où je pense que le souvenir de cette petite qui mangeait de sauce tomate avec du sucre, qui avait interrompu la classe, m'avait complètement perturbée au point que des années et des années plus tard, finalement, j'ai pensé à elle en créant ce personnage.
Alors, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que peut-être en a-t-elle rempli avant des fiches d'identification ou pas. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce personnage, c'est quasiment une dimension fantastique. Oui. Il y aura un voyage scolaire qu'on évoquera où elle sera surnommée la fille du diable.
Oui.
Dans la rue, et c'est vrai que on ne sait pas grand-chose d'elle. Ça va faire aussi la matière du roman, Les Silences d'Alexandrie de Michel Gazier, paru au Mercure de France. Mais en même temps, c'est assez fascinant aussi quand on est lecteur, parce que l'auteur va nous balader dans ce personnage et dans cette relation très particulière qui va se nouer entre l'enseignante et cet élève.
Oui, bien sûr. Et c'est à travers elles deux que quelque chose va se construire ou se détruire, les deux à la fois. Et que c'est cette relation qui est une sorte de charpente du roman. Et aussi une charpente de la vie de la narratrice et de cette jeune personne dont l'identité est flottante aussi, puisqu'elle va avoir deux identités différentes. Et cette jeune personne... elle n'a pas plus oublié son professeur que son professeur ne l'a oublié. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se construit là quand elle a 15 ans et qu'elle est en classe de première et que l'autre, c'est la première année qu'elle enseigne. Donc elle a une, elle est une patte fraîche sur laquelle va s'imprimer la personnalité de cet élève. Et donc il va se passer quelque chose entre les deux et ça va se passer à travers... on va dire, la littérature pour faire large.
Oui, oui, tout à fait. Mais d'une certaine manière, ce roman, Michel, c'est un, j'allais dire, c'est un double roman initiatique.
Oui, oui, sûrement. C'est-à-dire que l'enseignante, elle apprend à le devenir, et elle apprend à le devenir sous diverses formes, parce qu'elle est d'abord professeure dans un lycée. Plus tard, on la retrouvera, elle dirige un atelier d'écriture. Plus tard encore, on la verra, elle écrit. Donc, elle est comme ça, on va suivre son devenir de l'enfance de son écriture, en tout cas de l'enfance de son enseignement, jusqu'au bout de ce qu'elle est devenue, quelqu'un qui peut écrire sur ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire, bon, voilà, on suit cette aventure personnelle. Et pour la jeune femme, pour l'élève aussi, puisque elle, on va la voir évoluer, on va la voir disparaître, réapparaître sous une autre identité. Et on va petit à petit arriver à comprendre quel est son itinéraire, d'où elle vient et quelle est son histoire. On le comprend à travers ce qui est raconté, toujours à travers des écrits. Mmh. C'est-à-dire que la vérité et les mensonges passent tous par l'écriture, parce que je crois que la littérature, c'est un mensonge qui dit vrai.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. gracias a la vida que me ha dado tanto.
Oui, j'allais dire c'est ça, parce que Les Silences d'Alexandrie, c'est un roman dont le principal sujet est le questionnement autour de la fiction.
Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'une fiction ? Qu'est-ce que c'est que la réalité ? Qu'est-ce que c'est qu'être un personnage ? Qu'est-ce que c'est qu'écrire un personnage et raconter une histoire ? Et puis, quelle est la place de la vérité là-dedans ? Et est-ce que la vérité est importante ?
Importante, tout à fait.
Très vite, la petite élève, elle a lu des livres, et quand elle sert des dissertations à son professeur, elle va servir des dissertations qui sont cohérentes, mais dont une partie ne lui appartient pas. Elle va pomper des textes des grands écrivains, Laurence Derrel en particulier, et pas que. Mais est-ce qu'elle ment ? Non, elle ne ment pas. Est-ce qu'elle triche ? Non, elle ne triche pas. Elle n'a pas les mots pour le dire. Elle trouve dans la littérature les mots pour le dire.
C'est tout le rôle de la littérature. On s'habille toujours des mots des autres.
Exactement.
Et elle trouve effectivement, dans, en l'occurrence, il y a les silences d'Alexandrie, parce que le quatuor d'Alexandrie est présent dans le roman. Mais c'est vrai que quand on n'est pas bâti, parce que Françoise Dolto est présente aussi.
Oui, quand, bien sûr, quand, pour le cas Dominique.
Voilà, ouais, tout à fait. Et quand on n'est pas bâti sur du vrai, qu'on est bâti sur un mensonge, il y a quelque chose qui n'est pas vrai en soi, pourquoi ne pas s'habiller justement de la littérature ? Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et se servir de ça ?
Mais peut-être qu'effectivement, la littérature, elle nous permet aussi de nous identifier. Je veux dire que combien de fois, est-ce que, en tout cas, je peux le dire au nom du jeu, là, pour le coup, combien de fois je me suis retrouvée dans un roman et j'ai compris des choses de ma vie à travers ce que j'écrivais. À travers ce que je lisais, non pas ce que j'écrivais. Ce que j'écrivais, c'est une manière de chercher. En lisant, c'est une manière de trouver. C'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est vrai que on résout des problèmes à travers les livres. Les livres nous parlent. Ils nous font aussi.
Oui, tout c'est toujours. Alors, cette relation entre effectivement cette enseignante et cette jeune femme, enfin cette jeune fille qui s'appelle Serena quand elle est dans la classe, va évoluer. Alors d'abord, il va y avoir un voyage scolaire en Espagne, et moi, ce voyage m'a intéressé à plusieurs titres. D'abord parce qu'il y a Lorca, et puis parce que c'est là où on voit le toujours par rapport à cette dimension de initiatique par rapport à l'enseignante, le peu de différence qu'il y a entre cette jeune femme et ses élèves, et le fait qu'elle n'a pas intégré un élément qui est, voilà, dans la classe, il n'y en aura que tant de majeurs, les autres seront mineurs. Et voilà, c'est un élément parmi d'autres. Et puis, parce qu'il va se passer avec Serena un événement particulier où là, Serena va disparaître, comme ça arrive, elle va fuguer, mais elle est tellement dans la construction permanente de sa vie qu'on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et ça va être, je vais dire, la première écharde dans le pied de l'enseignante.
Oui, parce qu'elle, elle, d'abord, oui, effectivement, comme vous le disiez, elle n'a jamais pensé que quand on était majeur, on était responsable de soi-même. Mais quand on est mineur, c'est vous, l'enseignante qui encadre, qui est responsable de l'élève en question. Et donc, elle se retrouve devant une quantité très impressionnante avec ses collègues qui encadrent le voyage. Mais tout à coup, elle est responsable. Et comme elle est très jeune elle-même, quand l'autre va fuguer, elle ne va pas le dire. Elle va couvrir. Et en fait, elle est à la limite du...
Eh bien oui.
Voilà.
Serena l'a fait passer hors cadre.
Exactement, elle est hors cadre. Et s'il était arrivé quelque chose à Serena, elle serait responsable. Et donc, elle va s'appuyer sur deux garçons majeurs pour essayer de la retrouver, ce qu'elle ne la retrouvera pas. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'elle est passée de l'autre côté, malgré elle.
Serena l'a tirée.
Évidemment.
Et c'est le début de
c'est le début d'emprise.
Ouais, ouais, tout à fait.
Le début d'emprise.
C'est là que l'emprise commence à se nouer. Alors, on va pas tout dévoiler, mais comme on l'évoquait il y a quelques minutes dans Les Silences d'Alexandrie, Michel Gazier, ce roman par le Mercure de France, l'enseignante va cesser d'enseigner un moment pour animer des ateliers d'écriture. Et là, à sa grande stupeur, elle va voir arriver une femme qui a la même chevelure, le même regard, la même silhouette que Serena, mais qui ne s'appelle plus Serena, qui est Thérèse et qui prétend ne pas la connaître. Et, oui. Et là, on bascule parce que, effectivement, on se dit mais c'est juste insupportable comme manipulation.
Mais c'est juste insupportable, de fait. Parce qu'il y a encore un détail supplémentaire, c'est qu'elle a une cicatrice sur le bord de la lèvre, qu'elle s'est faite
en trottinette.
Et que donc, Thérèse a la même cicatrice. Donc, et pourquoi est-ce qu'elle refuse d'être Serena ? Qu'est-ce qui fait qu'elle a rompu complètement avec ce personnage de l'adolescence ? Mais pourtant, elle s'est inscrite à cet atelier en sachant chez qui elle allait, puisque elle n'est plus enseignante, mais elle a gardé le même nom. Donc, quand elle s'inscrit à l'atelier d'écriture, elle sait qu'elle va la retrouver.
Et on est encore dans la dimension de l'écriture.
Voilà. Parce que on est parti de la lecture et on arrive à cette dimension-là de l'écriture. Alors on est parti de la lecture, mais la lecture qui va qui va passer dans les écrits de la jeune
de Serena,
de Serena, puisque elle utilise des citations qu'elle s'attribue de livres qu'elle a sûrement aimés. Et là, elle vient apprendre à écrire. Alors, pourquoi est-ce qu'elle vient apprendre à écrire ? Qu'est-ce qui est important dans cet apprentissage de l'écriture ? Qu'est-ce qu'elle cherche dans l'apprentissage de l'écriture ?
C'est toute la question.
Toute la question.
Un terrain en pente au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir quand la ville s'allume. Je regarde le soir et je fume. Je vois le cours de danse à côté de la piscine et les dames qui pensent dans leur cuisine. Elles pensent aux actrices dans les halls monumentaux, les brassées d'iris et les beaux manteaux. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. De mon belvédère, je regarde la France avec ses lumières, ses souffrances. Je vois au bord de l'heure une usine qu'on vend et des hommes qui pleurent devant. Plus loin les Anglis et Rouen derrière et le fleuve qui glisse dans la mer. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. Au bord du canal, il y a des campeurs, des gens qui leur parlent et qui ont peur. Un monsieur de dos à la découverte de l'Eldorado dans une poubelle verte. Fanion Bannière, plaisir et souffrance entre les barrières, pas passe le tour de France. La gloire a des chemins durs et abrupts. Pour monter le machin, faut prendre des trucs. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. Un terrain en pente, au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume.
Mais le chemin ne s'arrête pas là. Bien sûr, et après avoir animé l'atelier d'écriture, effectivement, notre narratrice elle-même se met aussi, fait ce chemin d'accéder à l'écriture, de publier, d'être reconnue en tant qu'auteur, à tel point d'être invitée dans un truc absolument improbable au Canada, où elle va se retrouver dans une soirée très chic, diplomatique, avec des grands auteurs, entre guillemets, où elle se sent un peu en décalage et où elle va découvrir qu'en fait, sa présence, là encore, n'est pas un hasard.
Non, sa présence, elle, c'est pas du tout pourquoi elle a été invitée, mais elle est tellement contente, une invitation, ça ne se refuse pas. Donc, et puis elle est, oui, les gens qui sont là, ils ont l'habitude d'être reçus par l'ambassadeur de pays étrangers, etc. Ils font même la gueule parce que l'ambassadeur n'est pas là ce jour-là. Donc voilà, c'est cool. Et puis tout à coup, elle se retrouve dans une bonne place. Elle pense qu'elle va être en bout de table parce que elle est la moins connue des invités, et elle se retrouve tout près de celui qui aurait dû être l'ambassadeur, qui ne l'est pas, et d'un autre ambassadeur de Belgique qui se présente à elle et qui la remercie d'avoir été d'avoir enseigné le français à sa fille. Et là on comprend effectivement que c'est le père de Serena et Thérèse.
Voilà, que Serena et Thérèse sont une même personne et que en plus elle a parlé de son enseignante
à son père.
Et là effectivement là ça commence à être vraiment extrêmement troublant, parce que rien n'est jamais fait de front, et on prend en compte la force de manipulation de Serena Thérèse, au point de faire agir vis-à-vis de cette femme enseignante d'autres, et de la manipuler complètement, de la faire venir à des colloques. Enfin, c'est vraiment la poupée.
Oui, elle la circonvient complètement.
Complètement, ouais.
Et elle y va en toute innocence. Et quand elle l'a mise au pied de ce mur-là, qu'elle lui a finalement imposé son identité réelle, puisque si elle est la fille de cet homme, bon, les noms qu'elle a déclinés ne sont pas. Voilà, bon, donc il y a une série de mensonges qui se sont emboîtés. Et puis, elle a quand même aussi besoin de se justifier, et là, elle va lui envoyer des lettres. Et je crois que c'est le pivot du livre.
C'est là où je l'ai détesté.
C'était sûr.
C'est les lettres. Effectivement, les lettres, je les ai trouvées d'une violence terrible.
Oui, mais je pense que c'était juste à travers ces lettres-là qu'elle pouvait exprimer cette violence sans que... c'est quelqu'un qui est quand même dans la courtoisie de la relation.
Oui.
Donc, cette violence qu'elle porte en elle, qu'on sent, surtout quand elle est Serena, quand elle est Thérèse, beaucoup moins, mais quand elle est Serena, on sent bien qu'elle est à vif, qu'il y a quelque chose. Elle fait quand même une tentative de suicide aussi, au passage, quand elle est jeune. Mais là, elle va pouvoir, maintenant que les cartes sont distribuées, c'est-à-dire que son interlocutrice, la narratrice du livre, sait qui elle est, sait d'où elle vient. En tout cas, pour ce qui est de l'ascendance paternelle, elle a une mère qui n'a pas l'air d'être vraiment sa mère, mais peu importe, c'est le père qui prend le relais. Et là, elle va laisser exploser toute cette violence qui l'habite, cette violence à l'égard de tout le monde, finalement.
Oui, et puis cette violence qu'elle exprime, elle la fait subir aussi à la personne
à qui elle adresse les lettres,
parce qu'elle la chosifie complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de réponse.
Elle n'a pas d'adresse.
Elle n'a pas d'adresse. Il n'y a pas de possibilité d'interaction quelconque. Les lettres ne tiennent pas compte de quoi que ce soit, ne sont pas datées, arrivent de manière aléatoire, sans qu'il y ait de repère quelconque, ni quoi que ce soit. Elles expriment beaucoup de choses, mais plus on avance dans la lecture, plus elles réduisent à néant la personne qui les lit. Et c'est ça qui, moi, m'est resté...
Oui, c'était bon, alors. mais c'est ce que je voulais, parce qu'il faut qu'à un moment, effectivement, la narratrice mais vraiment ras-le-bol, et il y aura ce moment où elle va tout rejeter, parce que elle fait peser sur elle un poids qui est absolument insupportable. Et jusqu'où est-ce qu'elle peut aller? Elle est intelligente, donc elle sait bien qu'elle a touché le fond et qu'il va falloir aménager quelque chose comme une concorde, parce que là on est dans la discorde complète finalement, et dans cette revendication d'être malheureuse, d'être incomprise, d'être mal aimée, de ne pas avoir de famille, d'avoir laissé indifférente ce professeur qui aurait pu peut-être la sauver.
Oui, parce qu'il y a aussi tout ce processus de culpabilisation et qui rentre en écho, j'allais dire, avec une faille aussi de l'enseignante. Et ça, on le voit très bien parce que, comme on l'évoquait, elle va à la fin de son année scolaire faire une tentative de suicide. Donc il y a quelque chose qui va rester en suspens de l'ordre de la culpabilité, de ne pas avoir su décrypter les signes qui montraient qu'elle n'allait pas bien, et puis de ne plus avoir une nouvelle ensuite. Et puis ce côté, cette dimension aussi du professeur qui voudrait sauver tous ses élèves. Et c'est un autre épisode qui va lui permettre aussi de conscientiser un peu plus ce phénomène, puisque va y avoir, sans dévoiler toute l'histoire, va y avoir un voyage aux Antilles, un voyage qui s'annonce comme très plaisant, puis qui en fait ne va pas l'être tant que ça, et puis il va y avoir la rencontre d'une petite fille qui va être, j'allais dire, il y a une espèce de jeu de miroir là qui se crée. Elle s'appelle Ticia, mais en fait son nom c'est Thérèse, et dans cette Thérèse là et bien ça va être le moyen de prendre conscience que on peut pas sauver tout le monde.
Et même si on peut pas non plus comparer les malheurs des uns et des autres, elle prend conscience que cette petite fille qui vit quand même dans quelque chose qui est beaucoup moins bourgeois et comment dire, et facile que la vie que peut mener Thérèse. Thérèse a peut-être des problèmes personnel, mais elle n'a pas de problème matériel. Alors que cette petite fille, elle est derrière la caisse, à côté de la caisse, où sa grand-mère vend elle est épicière dans un petit village de Marie-Alante. Et elle est là, pleine de colère, aussi pleine de colère que peut l'être Thérèse. Mais sa colère, à elle, touche beaucoup plus la narratrice, qui tout d'un coup se rend compte qu'il ne faut pas exagérer. Il n'y a pas d'échelle de malheur. Mais il y en a quand même dont le sort est bien pire que d'autres.
Oui, et puis cette petite fille, sans dévoiler son histoire, elle va la rencontrer alors qu'elle est sous un mancenillier, donc dans une mise en danger, sans rien demander quoi que ce soit, et c'est vraiment là le désespoir d'une certaine manière, la colère et le désespoir.
C'est ce désespoir de l'enfant qui sait parfaitement que le mancenillier est dangereux, qui se met dessous, et c'est pas du suicide.
Parce que, mais a priori, il n'y a pas de témoin non plus.
Elle fait ça, mais c'est une manière de désespoir. Elle n'est rien. Elle n'est rien. Elle n'est rien. Sa mère n'est pas là. Son père, n'en parlons pas. Et la dame qui la garde, qui est sa grand-mère, garde aussi d'autres petits-enfants. Mmh. Voilà.
On découvrira l'histoire en lisant le roman.
«
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes.
Il y a une autre Thérèse dont il faut qu'on parle, qui est présente aussi.
Oui. Une qui m'est très chère. C'est la sainte, c'est Thérèse d'Avila, bien sûr.
Par
ses écrits, bien sûr. Mais oui, et aussi de par sa situation. Mm. Parce que quand moi j'ai fait des études d'espagnol, comme vous savez, et quand j'avais étudié pour la première fois Thérèse d'Avila, ce qui m'avait frappé, c'est que, en fait, la religion que je connaissais, qui est celle dans laquelle vivaient les gens autour de moi, ne donnait pas cette dimension de salvatrice. Mm. Mais ce dont j'ai pris conscience en étudiant et étudiante les écrits de Thérèse d'Avila, c'est que, étant donné sa situation de juive et de femme, mm. si elle voulait faire quelque chose dans la vie, elle ne pouvait rentrer que dans les ordres. Un peu comme Julien Sorel ne peut suivre cette voie qui lui a été tracée. Et son ambition doit passer sous des fourches codines. Et elle, les fourches codines, c'est la religion. Et elle va être une sorte de soldat, puisqu'elle va tout bouleverser. Elle va écrire des choses très sensuelles. Les écrits de Thérèse d'Avila sont d'une sensualité
extrême,
torride, enfin, vraiment. Et j'ai beaucoup travaillé quand j'étais étudiante sur ces textes-là. Je les ai relus, là, effectivement, et l'avis que j'en donne dans le texte, c'est le mien, à savoir que j'ai été moins touchée que je ne l'avais été la première fois quand je les ai travaillés, lus et même traduits, puisqu'on nous faisait traduire Thérèse d'Avila, parce que j'ai été plus arrêtée par la dimension religieuse qui m'avait un peu échappé, même si j'ai toujours su que c'était, bien sûr, une dimension importante et fondamentale. Mais là, en la relisant et en reprenant le texte, puisque j'ai les écrits de Thérèse d'Avila, je me suis vue interrogée par ce que je n'avais pas vu à ce moment-là. Mmh. Que je n'avais voulu la voir que comme un soldat, et elle était aussi une religieuse. Voilà.
Oui, mais cependant, moi, la mise en parallèle des deux Thérèse, donc la Serena Thérèse et Sainte Thérèse, m'a intéressée parce que elle s'oppose sur beaucoup de points.
Ah oui.
Et comment, en partant d'un même, je veux dire, d'un même désespoir, d'une même détresse, déjà, il y en a une qui accède à la joie. Ce que l'autre est absolument
incapable
de faire, ne l'accueille jamais. Et y en a une qui, malgré ce qu'elle lui fait subir, a un corps et l'autre non. Ah,
mais bien sûr, absolument. Même si elle ne lui fait pas subir beaucoup de sévices, hein, mais elle est dans une relation amoureuse avec le Christ et la transverbération de son cœur.
Oui, c'est
extraordinaire. C'est vraiment
extatique. C'est extatique, bien sûr.
Et penser que quelqu'un va lire publiquement cette traduction et que Thérèse va être là pour entendre ça. C'est un choc aussi, ouais. C'est un choc formidable. Et je crois que c'est ce que la narratrice, c'est ce qui va déterminer la narratrice à prendre l'attitude qu'elle prendra dans la fin du roman.
Il n'y a pas de fatalité. Ça s'appelle Les Silences d'Alexandrie, c'est de Michel Gazier, c'est paru aux éditions Mercure de France. Merci en tout cas, Michel, de ce chemin et de ce livre si réactif. Mais très 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 riche. Comme toujours dans cette émission, on évoque les projets à venir. Donc, est-ce qu'il y a des choses autour du livre ? Est-ce que
Autour du livre, voilà, il est sorti le 4 mai, donc il suit son chemin tranquillement. Et puis des projets, oui, il y a toujours des projets d'écriture. Moi, j'ai quelques propositions comme ça de choses, de pas de côté. J'aime bien les pas de côté, j'aime pas enfiler les romans. Les romans, il faut que ça s'installe dans la temporalité, voilà. Donc pour l'instant, oui, peut-être un petit pas de côté sur un guide de souvenirs.
Ah. Eh bien, j'espère à une très prochaine fois. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Les Silences d'Alexandrie, c'est de Michel Gazier et c'est aux éditions Mercure de France.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
On arrive à la fin de cette émission, c'est toujours Radio Libertaire, c'est toujours 89,4 MHz, et dans ce numéro d'Idéaux et Débats, nous avons parlé du recueil de nouvelles intitulé « L'œil » de Claire Castillon paru chez Gallimard, et du roman de Michel Gazier intitulé « Les silences d'Alexandrie » paru au Mercure de France. On se retrouve dans deux semaines, il y a beaucoup de choses qui sont prévues, une interview de Nicolas Martin, une interview de Marie Richeux, la chronique de Gérard Guégan, enfin plein de belles choses. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire, c'est 89,4 MHz. Portez-vous bien.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète. Je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveau disponible de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.